Bonjour, bienvenue sur Micro Standard, 36e émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'écologie, et plus particulièrement d'écologie locale
positive.
Nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Ulrich.
Bonjour, merci.
Il est chargé de mission et de prévention pour Morlaix Communauté. Il a d'ailleurs lancé le programme Zéro Déchet. Avec nous également, pour un brin de causette, avec leurs 1000 recettes, dans leur musette, pour le mieux-être de la planète, les Jeannettes. Bonjour. Bien entendu, les Jeannettes et Nicolas, vous pourrez intervenir lors des sujets que nous allons aborder. Bonjour les chroniqueurs.
Bonjour.
Bonjour Ariel. Bonjour. Que nous as-tu préparé?
Alors moi, je vais vous parler de la consommation responsable.
Et vous, Mickaël et Jean-François?
On va essayer de vous convaincre que la mucocasis a été un mal pour un bien.
Et toi, Mickaël, que vas-tu nous enseigner?
On va parler de moteurs électriques. Après quoi, nous irons faire un tour à Pleyber-Crest avec Denis.
Oui, effectivement, nous allons parcourir Pleyber à travers les initiatives de la commune pour favoriser l'écologie locale.
Et merci à Michel Autrette, notre animateur vedette, qui nous envoie une énergie
positive.
Nicolas Ulrich, nous sommes très contents de vous accueillir. Pouvez-vous vous présenter?
Eh bien, merci. Moi, je suis très content d'être là aussi aujourd'hui. Alors, me présenter, j'habite à Pourrin, je suis du territoire. Et donc, vous l'avez dit tout à l'heure, je travaille à Morlaix Communauté. Et je travaille au sein du service environnement sur les questions de réduction des déchets.
D'où vient votre engagement pour l'environnement?
Alors l'engagement, je dirais, il est double, il est personnel, parce que effectivement, je supporte pas de rester inactif par rapport au constat qu'on fait aujourd'hui des choses de la planète. Et il est aussi professionnel, puisque tout au long de ma formation et dans mes métiers, j'ai l'occasion de regarder un petit peu l'état de la planète au fil des années. Et effectivement, moi, ça me renforce aussi dans mes convictions professionnelles.
Quels ont été les projets phares de Morlaix Communauté pour l'environnement?
Alors, il y en a plusieurs. Moi, je vais vous parler essentiellement des déchets, puisque c'est dans ce service que je travaille depuis des années. On pourrait parler aussi de l'eau, des espaces naturels, etc. Particulièrement sur les déchets, évidemment, je dirais qu'il y a quand même 10 ans qu'on travaille à fond sur le tri. Les déchets sont là, on essaye de les mettre dans les bonnes cases pour qu'ils soient recyclés. Et quand même, depuis 5 ans, la tendance, on commence à prendre conscience que trier, ça ne suffit plus par rapport à nos ressources. Maintenant, il faut vraiment réduire ces déchets. Donc là, on est à fond depuis 5 ans à développer tous les projets qui mettent finalement les poubelles au régime.
Quelle évolution avez-vous constatée?
Alors, l'évolution, si on regarde les chiffres... On peut se réjouir qu'il y a quand même une petite baisse globale des déchets, donc c'est plutôt pas mal. Après, moi, ce qui me satisfait, c'est de voir aussi l'évolution des gens, des consommateurs, qui ont vraiment envie de passer à l'action. Et on parlera, je pense, plus tard dans l'émission du défi des familles zéro déchet, notamment.
Vous avez donc des retours positifs, ça marche?
Ça marche. Alors, on ne peut pas se contenter, je vais peut-être reprendre... presque la phrase d'un élu qui vient de quitter le gouvernement. On ne peut pas se contenter de petits pas aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc on doit faire beaucoup mieux, même si, encore une fois, il y a des signaux positifs sur l'engagement des familles, sur l'engagement de certaines entreprises, sur l'engagement des commerces. Là, ça y est, on commence à aller tous dans le bon sens.
Et avez-vous d'autres projets pour l'avenir?
Bon, je pense qu'on a déjà suffisamment de choses à faire, de convaincre les gens de changer leur comportement. Après, il y aura toujours des projets, puisque malheureusement, il y aura toujours des déchets.
Dans votre débat, un mot m'interpelle, la sensibilisation des familles au sein de la consommation responsable. Pouvez-vous nous citer des exemples?
Alors, sensibiliser, c'est important, mais moi je pense que les gens, ils ont conscience, quoi. Je pense qu'on est plus sur le passage à l'action. Il faut arrêter de dire aux gens, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est bon pour la planète, c'est pas bon pour la planète, parce que ça marche plus. C'est des messages de masse, ça y est, c'est fini. Là, je pense que les gens, ils ont vraiment besoin qu'on les accompagne au quotidien. Voilà, qu'on soit dans l'action, qu'on soit dans des choses positives, c'est le titre de l'émission, c'est tout à fait ça. Alors après, au quotidien, moi je ne suis pas là pour donner des leçons, si tu veux, je ne vais pas dire il faut faire ci, voilà, toi il faut que tu achètes comme ça, voilà. Je suis là simplement pour aider, et on va parler avec les Jeannettes qui sont là pour l'offre et la demande en fait. D'accord. Parce que c'est bien beau de dire, il faut par exemple consommer sans tous ces emballages. Si à côté de chez toi, tu n'as pas un magasin, un truc comme ça qui te propose des choses en vrac, ce n'est pas possible, ça n'avance pas, quoi. Alors là, c'est clair que plus on consommera au niveau très local, et moins il y aura de déchets produits sur toute la chaîne. Parce qu'il faut imaginer, par exemple, que si tu achètes quelque chose de l'extérieur, il va déjà générer un emballage, un déchet pour le transporter, pour le conditionner. Et après, ça sera le déchet dans ta poubelle une fois que tu l'auras consommé. Donc là, c'est la triple peine, quoi.
Alors moi, j'habite à la campagne, à la frontière de Morlaix Communauté. Et j'ai vu des décharges communales se fermer au profit de faire des grandes décharges, par exemple une par canton. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une telle mesure encourage les décharges sauvages ? Parce que pour aller de certaines communes jusqu'à la décharge principale maintenant, il faut avoir les équipements pour, quoi.
Bon, alors, j'espère que tu me parles de déchetterie et pas de décharge. C'est bien ça ?
Déchetterie.
Voilà, bon. Ouf. Les décharges, c'était un des gros problèmes des déchets il y a 20-30 ans. Le gros problème, ça a été de fermer les décharges. Au niveau pollution, c'était vraiment... On avait tous le brouillet, on appelait ça dans les communes. Voilà. Bon, aujourd'hui, on fait un peu mieux. Je veux dire, la déchetterie, c'est le moindre mal. C'est-à-dire que tu vas mettre tes déchets dans la bonne caisse. Et effectivement, derrière, normalement, il y a les bonnes filières. Logiquement, on est pas mal pourvu sur le territoire de Morlaix Communauté. On est à peu près à 7 déchetteries. Je ne dis pas que c'est parfait. Il y en a qui doivent faire 10 minutes en voiture, d'autres 5. C'est évident. Maintenant, encore une fois, je trouve que le plus simple, c'est quand même d'essayer de générer le moins de déchets possible ou le traiter à domicile. Je prends l'exemple des déchets verts, les pousses, les tailles, etc. C'est de l'or brun pour votre jardin. Si vous faites du compost, du paillage, etc. Donc pourquoi s'embêter à mettre ça dans une petite remorque ou dans des sacs, dans son coffre, etc. et d'aller à la déchetterie pour faire des bornes, alors que ça va te servir à la maison, parce que de toute façon, tu vas aller chercher de l'engrais certainement au magasin. Tu vois ? C'est vraiment ces messages-là qu'il faut qu'on continue à... Voilà. Les outils de traitement, finalement, on n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin, ils sont là, les incinérateurs sont suffisamment gros, etc. Il faut arrêter. On n'en veut plus. On parlait de Pourrin, il y avait un projet de décharge à Pourrin pour tout le Nord Finistère. On n'en veut pas, et vous avez bien raison. Là, il faut vraiment travailler à réduire tous ces déchets en amont ou les réutiliser le plus possible à la maison.
Je posais cette question-là parce que j'habite à... en zone sinistrée, on va dire, à 15 km de la déchetterie.
C'est pas parfait, hein. Et j'ai envie de dire que la déchetterie... Alors, je suis désolé si je provoque ou je... Les déchetteries, ce sont des aspirateurs à déchets. Voilà. Finalement, heureusement qu'il n'y en a pas plus parce qu'il y aurait plus de déchets. Plus on dit aux gens, regardez, venez, amenez, et les gens, ils pensent bien faire, ils amènent. Aujourd'hui, nous, on essaie de faire machine arrière. Par exemple, je reprends l'exemple du déchet vert. Comment voulez-vous qu'on fasse comprendre aujourd'hui aux gens qu'il faut traiter les déchets verts à la maison, puisqu'on a dit pendant des années que c'était super de les amener sur les déchetteries ? Je ne dis pas que ce n'est pas bien, parce qu'on fait du compostage à l'échelle industrielle sur une déchetterie, mais ça coûte sûrement à la communauté 500 000 euros par an, par exemple. Si vous le faites à la maison, ça coûte rien et ça vous donne du compost pour votre jardin.
Justement, quand on parle de déchets verts, de pelouse et tout ça, quel est l'exemple, qu'est-ce qu'il faut faire pour une personne qui n'a jamais, qui envoie tout le temps son herbe à la déchetterie, quelle est la chose la plus simple ?
Alors, comme toutes les actions sur la prévention, il faut pas créer le déchet, en fait. La pelouse, alors là, c'est excellent. Il y a aujourd'hui la technique du mulching. Vous allez acheter une tondeuse aujourd'hui, ou peut-être votre tondeuse, on peut l'équiper, d'un kit mulching, en fait. On va plus ramasser avec son petit bac. On va laisser, en fait, ça va couper en tout petits morceaux. Et les petits morceaux d'herbe, en fait, vont revenir au sol, vont se dégrader et vont réenrichir le sol. On est tous en train de se plaindre, en plus, que de pousse, maintenant, il y a plein de mousse, etc. Bah oui, on est toujours en train de tondre. On exporte la matière et on ne remet pas aussi d'engrais organiques. Donc, vous voyez, d'une pierre deux coups. Je simplifie, j'ai pas les corvées d'aller à la déchetterie, etc. Ça coûte moins cher pour la collectivité et c'est beaucoup mieux en plus pour votre sol.
Les gens sont en train de se dire, là, du coup, je suis obligé de changer ou d'adapter ma tondeuse, ça va coûter.
Alors évidemment, il faut le faire au moment où on change sa tondeuse. On est OK. Alors juste pour information, à Morlaix Communauté, vous changez votre tondeuse, vous allez acheter une tondeuse dans un commerce local qui fait mulching et vous avez droit à un chèque de réduction de 50 euros de la collectivité.
Si on devait donner trois gestes à faire au quotidien aujourd'hui, ça serait lesquels pour toi, Nicolas ?
Refuser. Refuser tout ce qui sert à rien. Voilà, qu'on nous propose voilà, les lots de promotion. Je vais au restaurant, j'ai un petit cadeau. Voilà, c'est des choses inutiles qui nous encombrent et qui finissent à la poubelle. Voilà, c'est clair. Après, effectivement, il faut essayer de faire les choses soi-même. C'est du plaisir en plus, hein, de faire la cuisine, de faire ses produits. Quand tu fabriques ta propre crème pour le visage, mais t'as un plaisir fou, quoi. Tu comprends ce qu'il y a dedans, tu comprends, voilà, ça fait des économies, etc. Et puis après,
On peut dire que ça marche, hein, d'ailleurs, tu fais pas ton âge, hein, grâce à cette crème.
Exactement, voilà, on le voit pas, c'est la radio, c'est dommage. Voilà. Et la troisième chose, c'est que même si oui, on a pris un bon réflexe de se dire, bon, on trie, donc c'est pas grave. Mais essayons de penser à, est-ce que le truc là que normalement je suis formaté pour le mettre à la poubelle, est-ce que je peux pas l'utiliser autrement? C'est tout bête, mais je sais pas, les bocaux. On achète des bocaux de verre, des trucs comme ça, on se dit, bon, bah voilà, on le met au tri du verre, c'est pas grave. Bah si, mais est-ce qu'écologiquement, c'est quand même pas terrible, il va falloir refaire des nouveaux bocaux, etc. Et ils ont toute une utilité à la maison, ces bocaux-là. Déjà, on peut refaire sa compote, sa confiture, tout ça, tu vas servir de tes bocaux. C'est ça. Je vais pas dire que c'est des trucs qu'on faisait avant. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on n'a pas forcément le temps, etc. Machin. Et puis aujourd'hui, par contre, on a plus de connaissances, on a plus de produits, etc. Mais c'est de la logique en plus, hein. Et c'est aussi beaucoup de plaisir finalement, hein.
Oui, qu'est-ce que la famille Zéro Déchet ainsi impulsée à Morlaix-Communauté?
Alors, c'est vrai que c'est une opération où je prends beaucoup de plaisir, hein, dans le boulot. L'écologie, des fois, alors c'est positif, ok, mais au quotidien, c'est pas simple quand les gens s'en foutent un petit peu. Là, c'est vraiment super, on a une belle opération depuis un an. On accompagne vraiment des gens motivés au travers de ce qu'on appelle un défi des familles zéro déchet. Alors, le principe, c'est quoi? C'est que vous, votre foyer, vous allez pendant 6 mois essayer de mettre en place tout ce que vous avez dans la tête, tout ce que vous savez qu'il faudrait faire et que voilà pour la planète, etc. Là, on va se dire, allez, j'ai 6 mois, je mets en place. Sinon, de toute façon, on remet toujours au lendemain. Je sais que je peux apporter ça au chiffonnier de la joie, je sais que je peux faire ma crème, etc. Mais je verrai ça demain. Donc là, pendant 6 mois, ça nous oblige un petit peu à faire les choses rapidement. Alors, tu vas rentrer dans le défi, n'importe quelle famille, sur n'importe quelle commune de Morlaix-Communauté, n'importe quand dans l'année, on peut commencer en décembre, en janvier, en février, voilà. Il va durer 6 mois et tu commences quand même par une pesée de tes déchets. On t'aide, on te donne une petite balance. Pendant un mois, tu vas peser tes déchets qui doivent refléter ta consommation actuelle. Hein, tu ne vas pas faire exprès d'en produire plus ou tu ne vas pas essayer d'en produire moins. C'est voilà, d'où tu pars. D'accord ? Le défi, après, c'est 6 mois après, on refait la même pesée et on espère que là, bah, on aura mis en place des gestes et on espère que la poubelle aura diminué. Hein. J'insiste, la poubelle, c'est quoi ? C'est pas que la poubelle noire qu'on va peser. Hein. Il ne s'agit pas simplement de mieux trier. On va aussi peser la poubelle jaune et la poubelle du vert. Donc on voit bien qu'il va falloir changer aussi sa consommation dans ce défi-là, d'accord? Et pendant les 6 mois, qu'est-ce qui se passe entre les deux pesées? Eh bien, Morlaix-Communauté va proposer tout un tas d'ateliers d'animation. Voilà, on va mettre les familles à apprendre à faire les shampoings, etc. On va mettre les familles en relation, parce que finalement, là, il y a un Facebook qui est ouvert. Vous avez plein d'idées, les familles ont plein d'idées, elles s'échangent plein de trucs et astuces. Voilà, on a beaucoup de plaisir à avancer, en tout cas, dans cette action-là. Et ben, je vous invite à nous rejoindre le plus rapidement possible.
Alors, moi, j'aurais bien voulu rajouter un petit mot parce que justement, je fais partie des familles zéro déchet. Je viens juste de finir mon l'accompagnement avec Nicolas Ulrich. Et ce qui est vraiment très, très intéressant, c'est l'aspect du plaisir. Parce que bon, tu disais, la question, c'était est-ce que c'est pas aux enfants d'être éduqués? Mais les enfants, ils réagissent par imitation, quoi. Et l'imitation, elle est aussi contagieuse. C'est-à-dire que, effectivement, là, moi qui suis maintenant sensibilisé à des gestes qui ont quand même changé ma façon de réfléchir le monde et ce que je suis, et ben, c'est ultra contagieux. C'est-à-dire que des amis à moi se posent la question, finalement copient aussi mes gestes. Et puis, en fait, c'est marrant. Et ce qui est vraiment très chouette, c'est l'aspect communautaire. Il y a un plaisir, quoi. Et on n'est plus dans une idée de « c'est pas bien ce que tu fais, t'as mis ta poubelle qui était pas au bon endroit ». On est vraiment dans une idée de « ben ouais, c'est marrant, quoi, de faire son propre shampoing ». Alors, le premier shampoing, il faut qu'on parle traitement capillaire, c'est important. Et ben voilà, j'ai un cheveu soyeux avec un shampoing qui est dur. Mais c'est très étrange, parce qu'au début, on fait son shampoing. Alors, habituellement, dans mes casseroles, ben, moi, je mets des choses qui se mangent, quoi. Puis là, je mets du savon, machin... du savon en copeaux, je mets des huiles comment essentielles dedans, c'est un peu bizarre. Du coup, ma casserole qui d'habitude sent plutôt l'oignon, là, elle va sentir quelque chose qui sent bon, c'est très étrange. Et finalement, c'est marrant, quoi, de faire sa propre production de produits qui vont nous servir ensuite. Et ce qui est marrant, c'est aussi d'offrir à des amis ses propres créations de shampoing, ce genre de choses. C'est je crois qu'il y a là, il y a en ce moment quand même, par ce côté plaisant, quelque chose qui change autour de nous, quoi.
On veut du green, 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 green washing. On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit.
On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs.
On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer, on veut du
c'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 greenwashing.
On cache les galets sous le sable, on veut des plages de sable blanc, du réseau pour nos portables, on voudrait quatre bars tout le temps, des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables.
On veut des baleines et du thon. On veut du green, 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 greenwashing.
On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées.
On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été.
Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques.
On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique. On veut du green, 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 green washing.
C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 green washing.
On veut des lessives sans phosphate, des shampoings tout organiques,
des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques,
des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert,
mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire. On veut du green, 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 greenwashing. On veut du green, 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 greenwashing.
On veut pouvoir dire soulager son esprit.
On veut du green, 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 greenwashing.
On veut la mer, on veut l'été, on veut bronzer.
On veut du green, 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 greenwashing.
On veut des baleines et du thon.
On veut du green, 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 greenwashing.
C'est plus les as.
On veut du green, 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 greenwashing.
Maintenant, nous passons à la rubrique rédigée par Hervé et commentée par Ariel et Yann.
Alors Ariel, la consommation responsable, c'est quoi ?
Alors, dans les pays développés, on constate depuis quelques années que les consommateurs sont de plus en plus sensibles à des préoccupations sociales ou écologiques lorsqu'ils effectuent leurs achats.
Et toutes ces préoccupations, elles se traduisent comment ?
Ces préoccupations nouvelles des consommateurs se manifestent par exemple par leur refus d'acheter à des entreprises qui dégradent l'environnement ou qui font travailler des enfants. Cela se traduit aussi par l'achat de produits issus du commerce équitable ou par l'achat de produits dont une partie du prix est réservée à une cause humanitaire, par exemple la construction d'écoles en Afrique.
Bon, et concrètement, comment ça se passe ?
Eh bien, lorsque nous achetons des produits, nous pouvons nous soucier des conséquences de notre consommation sur le monde qui nous entoure. Par le choix des produits que nous achetons, nous pouvons même exprimer des opinions ou des valeurs. D'une certaine manière, acheter, c'est voter. Voter pour un certain type de société, voter pour un certain mode de vie, voter pour le gaspillage ou pour la modération, voter pour la destruction de l'environnement ou pour sa préservation.
Alors, finalement, c'est ça qu'on appelle la consommation responsable ?
Tout à fait. Lorsque nous, consommateurs, nous prenons en compte les conséquences de nos choix de consommation, nous faisons preuve de ce que l'on appelle un comportement de consommateur responsable.
La consommation responsable, c'est donc choisir tel ou tel produit plutôt que tel autre.
En fait, notre consommation responsable peut se traduire par deux types de comportements. Des comportements d'évitement, par exemple, si nous refusons d'acheter un désherbant chimique polluant, ou des comportements positifs, par exemple, si nous choisissons d'acheter des produits biodégradables ou recyclables.
Et comment est-ce que l'on se choisit ? C'est un choix personnel ou les consommateurs sont guidés par des associations ou peut-être des groupes ?
Les deux sont possibles. Nous pouvons nous comporter en consommateurs responsables à l'initiative d'un groupe ou d'une association. Par exemple, lorsque nous suivons le boycott d'entreprises jugées irresponsables d'un point de vue social ou environnemental. Certaines compagnies pétrolières ont à plusieurs reprises fait l'objet de boycotts à cause de leurs pratiques environnementales en Afrique ou de leur utilisation de navires pétroliers ne respectant pas certaines normes internationales de sécurité. Mais nous pouvons aussi nous comporter en consommateurs responsables de notre propre initiative. Par exemple, lorsque nous choisissons d'effectuer avec le soin le tri de nos déchets ménagers, que nous privilégions l'achat de produits biologiques et de produits recyclables ou recyclés, et que nous évitons d'acheter certains produits nocifs pour l'environnement.
Être un consommateur responsable, c'est un peu être militant ?
La plupart du temps, les consommateurs responsables ne sont pas, à proprement parler, des militants, même si certains peuvent le devenir. À un moment donné, les consommateurs responsables sont de simples citoyens comme toi et moi, qui un jour ont constaté que telle entreprise dont ils achetaient les produits exploite le travail des enfants ou pollue l'environnement. Alors, ils ont décidé d'agir en achetant une autre marque. Ensuite, ils se sont mis à réfléchir à leurs achats et à devenir plus déterminés, plus militants, voire partisans de la décroissance.
Et ces comportements responsables, ça va jusqu'où ?
Alors, peu à peu, les préoccupations des consommateurs se sont élargies pour se soucier de nouveaux aspects, comme l'origine géographique des produits qu'on achète. Par exemple, certains consommateurs privilégient les produits de leur région ou les produits français. Et de nombreux consommateurs se soucient aussi du degré d'emballage des produits, de la pollution générée par la fabrication. D'autres consommateurs essaient de réduire le plus possible leur volume de consommation à ce qui est vraiment nécessaire, en évitant de trop consommer.
Et le petit commerce dans tout ça ?
Ah oui, alors là c'est vrai que certains consommateurs font aussi le choix de soutenir les petits commerces pour qu'ils ne disparaissent pas au profit des grandes surfaces.
Est-ce que ces nouveaux comportements ont permis des avancées sociales ?
Oui, c'est grâce à toutes ces nouvelles préoccupations des consommateurs que le commerce équitable s'est développé, de même que l'alimentation biologique et les produits solidaires.
Alors, qu'est-ce que les consommateurs font le plus ? Boycotter des produits à problème ou bien acheter des produits des entreprises qui sont vertueuses ?
Alors, malheureusement, de nombreuses études montrent que les consommateurs français sont davantage prêts à boycotter les produits des entreprises peu responsables qu'à acheter les produits des entreprises responsables. Ainsi, 65% des consommateurs français se disent prêts à boycotter une entreprise qui fait travailler des enfants, mais seulement 45% des Français sont prêts à payer plus cher pour des produits garantis fabriqués par les adultes.
Les consommateurs préfèrent donc punir les entreprises aux comportements condamnables que de récompenser les initiatives positives des entreprises ?
En effet, et si nous voulons encourager les initiatives positives des entreprises en matière de préservation de l'environnement, un travail important de sensibilisation et d'éducation des consommateurs reste donc à faire. Si nous voulons parvenir à améliorer le monde dans lequel nous vivons.
Vous écoutez l'émission Micro Standard et c'est fou, 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 fou.
Nicolas, une réaction à chaud sur l'exposé qu'ils viennent de faire ?
Oui, bravo et merci pour cet exposé. Moi, je voudrais vraiment qu'on prenne conscience que, voilà, on parle de consommateur, mais on parle aussi de consomme-acteur. Hein, ça a bien transpiré au travers ce texte-là. Il faut sortir de l'espèce de fatalité. Moi, j'entends ça tous les jours. C'est pas de notre faute, c'est la faute des industriels. Eh bien, oui, on peut dire ça, sauf qu'on est co-responsable. L'industriel qui met des produits pas trop vertueux, et le consommateur, alors soit qui punit, mais qui ne veut pas forcément aller sur les alternatives. Il faut bien se mettre dans le crâne aujourd'hui que l'industriel, il est là pour répondre aux besoins du consommateur. Quand le consommateur voudra que du vrac en grande surface, nous aurons que du vrac en grande surface. Voilà comment on avance. Il faut être conscient de ça.
On a la chance de recevoir aussi, pendant cette émission, les Jeannettes. Bonjour les Jeannettes.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ? Vous êtes qui ?
Donc moi, c'est Chloé.
Ouais.
J'ai 25 ans et je fais partie des Jeannettes avec...
Pauline, moi j'ai 27 ans et je fais aussi partie de l'association des Jeannettes qu'on a créée avec Chloé.
Alors concrètement, c'est quoi les Jeannettes ?
Donc les Jeannettes, c'est une association qui a été créée début 2017 et qui a pour objet de sensibiliser à la consommation locale et la réduction des déchets. Donc à travers un fanzine, le petit magazine et des ateliers à destination du grand public. Maintenant, à partir de l'automne 2018, ce sera aussi un commerce de proximité, donc Place Aliende au centre-ville de Morlaix, pour vendre des produits exclusivement sans emballage, donc en vrac, essentiellement locaux, tout en privilégiant le bio dans les circuits courts, avec un espace atelier pour tout le projet pédagogique qu'il y a autour et qui est de la pédagogie du faire soi-même, qui favorisera donc l'émancipation du consommateur face aux grandes surfaces et aux produits emballés.
Bon, cette idée, elle vous est venue comment et quand ? Ça a démarré comment, cette histoire ?
Les Jeannettes, ça a démarré quand on s'est re-rencontrés avec Chloé. On se connaissait depuis longtemps, mais sans vraiment avoir discuté toutes les deux. Et on s'est rendu compte qu'on avait toutes les deux les mêmes problématiques. On était toutes les deux dans une démarche similaire. On essayait toutes les deux de consommer davantage local et de réduire un petit peu nos déchets. Et c'était très difficile. Toute cette démarche-là est compliquée quand on n'a pas l'info. Parce que l'info, on la trouve sur Internet, dans des journaux, mais y a tout et son contraire. Mmh. Et on s'est rendu compte que les bonnes astuces, on les trouve en discutant avec les gens. Du coup, on s'est dit que les astuces qu'on avait, nous, on allait les partager avec les gens et que les gens pourraient aussi partager les leurs avec nous.
Bon, concrètement, les ateliers ont démarré ?
Les ateliers, on en a fait pendant l'année dernière au Ticoz à Morlaix. On faisait un atelier par mois et les ateliers maintenant auront lieu une fois par semaine à l'épicerie, animés par nous, plus les ateliers, notamment des familles zéro déchet qui auront lieu de temps en temps à l'atelier de l'épicerie.
Bon, on entend quand même beaucoup parler de vous. Il y a eu beaucoup d'articles de presse. Vous êtes présente sur les réseaux sociaux. Quels sont aujourd'hui les retours que vous avez de votre démarche ?
Alors, globalement, le projet est assez bien accueilli. Hein. On a pu s'en rendre compte de différentes manières. Premièrement, en organisant des causettes qu'on a organisées aussi grâce à Morlaix Communauté, mais on en a fait d'autres. Donc là, c'était des réunions un peu publiques pour que les gens puissent se rencontrer et partager autour de cette problématique de réduction des déchets et de consommation locale. Et donc, on a eu à chaque fois pas mal de participants. Et deuxièmement, à travers le financement participatif pour l'épicerie, en fait, on a quand même réussi à fédérer 155 contributeurs donc, qui sont quand même du territoire. Donc c'est assez intéressant et on pense effectivement qu'il y a une appétence particulière du pays de Morlaix en fait, pour des projets tels que celui-ci. Et il y a une vraie volonté de réduire ses déchets et de consommer local, de mettre en avant le producteur du coin.
Il y a un langage dans tout ce que j'ai lu. Qui c'est qui rédige cette façon de parler ? Elle est quand même assez originale.
Alors, c'est moi qui rédige, mais c'est quelque chose qu'on a décidé ensemble tous les deux parce qu'on le voulait accessible.
Ouais.
On voulait qu'un enfant puisse lire le fanzine, qu'un grand-parent puisse le lire, que n'importe qui puisse le lire. Et on voulait s'écarter de la moralisation qu'il peut y avoir quand on parle de réduire ses déchets, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. On voulait rendre ça digeste, sympa et voilà. Pour rendre ça accessible, en fait.
Là, c'est le numéro 2 que j'ai dans les mains.
Oui.
Il est imprimé en local, bien évidemment.
Oui.
Qu'est-ce qu'il raconte ce numéro 2? On découvre quoi dedans?
Donc en fait, le projet c'est un fanzine par trimestre, parce que un fanzine par saison, parce que consommer local et réduire ses déchets, ça veut aussi dire manger de saison. Donc ce numéro-là était sur la période de Noël, Noël 2017 déjà. Et donc il s'agissait vraiment de réutiliser tous les restes. Donc là, on a travaillé en collaboration avec des chefs cuisiniers qui nous ont aidés à trouver des astuces pour réutiliser les chips molles de l'apéro de Noël, les carcasses de la dinde, etc., etc. On a aussi travaillé, on en parlait tout à l'heure, de la sensibilisation auprès du jeune public. Donc là, on a travaillé avec les élèves de l'école de Loquenolé, école primaire, dans le cadre de temps d'activité périscolaire. Et donc, d'ailleurs, là-dessus, en fait, on se rend compte aussi que les enfants sont vraiment prescripteurs, et finalement, ils deviennent un peu le commissaire de la réduction des déchets à la maison, et c'est assez intéressant quand même.
Bon, on parle de l'ouverture de votre vous l'appelez comment, boutique, magasin,
épicerie, atelier,
épicerie, à l'automne. Mais pour moi, on est à l'automne. C'est quand l'ouverture?
Et l'automne n'est pas fini.
On en est où?
On a annoncé automne parce que ça nous laissait une grande marge. Oui, et comme ouais. Ça, on ne donnait pas de date, on ne mentait à personne.
On a bien compris.
Techniquement, on a jusqu'au 21 décembre.
Voilà.
Ça devrait être courant du mois prochain.
D'accord. Donc courant du mois de novembre. On est d'accord.
Ah,
les clés arrivent. Voilà. Donc il y a tout l'aménagement à faire.
L'aménagement, un petit peu de peinture et après ce sera parti.
Bon, est-ce que vous avez déjà une idée de ce qu'on va y trouver pour l'ouverture? On a la saisonnalité évidemment. On va y trouver quoi?
Alors l'idée c'est qu'on puisse y trouver de tout, qu'on puisse faire ses courses en centre-ville à nouveau. Du coup il y aura des produits secs, il y aura des pâtes, des légumineuses, des produits frais aussi parce qu'on aura des légumes qui viennent du lycée de Sucigneau. On aura aussi un petit peu de crèmerie et on aura aussi tous les produits d'entretien, tous les produits d'hygiène, des produits aussi qu'on va fabriquer nous-mêmes, donc des mouchoirs en tissu, des cotons en tissu réutilisables et lavables, des lingettes réutilisables. Voilà, l'idée c'est qu'on puisse trouver un peu de tout, sauf de la viande, parce que y a la boucherie à côté, le poisson c'est pareil, il y a une boucherie à côté, le vin, il y a des caves à côté. Voilà. L'idée, c'est pas de faire de la concurrence aux autres commerces, mais d'encourager les gens à aller un peu partout et de pouvoir faire ses courses en fait dans le centre-ville.
L'aboutissement, c'est l'ouverture de cette épicerie.
L'aboutissement du projet Jeannette.
Ouais.
Y a un an, on pensait pas du tout ouvrir une épicerie. En fait, l'idée, c'était vraiment des actions de sensibilisation. Hein. On travaillait toutes les deux à temps plein, on faisait ça à côté par conviction, plaisir et militantisme aussi quand même. Après, ce qui s'est passé, c'est que pendant les causettes, donc les réunions publiques, on a pu quand même sonder pas mal de monde à travers les ateliers aussi, pardon. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin non satisfait sur le territoire qui était de pouvoir s'approvisionner en produits sans emballage à des prix accessibles. Donc, je ne citerai pas le nom des grandes surfaces qui font exclusivement du bio avec beaucoup de vrac, mais qui sont à des prix voilà, que tout le monde ne peut pas se permettre de mettre dans des courses quotidiennes. Et aussi de vraiment se favoriser le produit local à part sur le marché en fait le samedi matin. Voilà, on a des difficultés à s'approvisionner de cette manière-là. Et l'idée, c'est vraiment de retrouver tous les produits du marché, mais toute la semaine. C'est un peu ça quand même l'objectif. Mais on a aussi une vraie volonté de s'inscrire dans une démarche d'économie sociale et solidaire. Hein. On a même créé nos statuts. Vraiment, on a beaucoup travaillé là-dessus avec une juriste. Et comment ça se traduit en pratique? On va instaurer un système de livraison en vélo électrique pour les personnes à mobilité réduite. On est en train de voir pour pouvoir en plus travailler avec les autres commerçants environnants pour pouvoir proposer vraiment une offre globale aux personnes qui en ont besoin. On devrait aussi travailler avec Ascoria, qui est donc le centre de formation dans carrière sociale, pour animer des ateliers pour des publics spécifiques. Donc, il reste à définir, mais on ouvre nos portes, en fait, de l'atelier à toute association, à vous, à tout le monde, pour avoir des ateliers voilà, qui à destination de tous.
Nicolas, quand tu vois des démarches comme ça, tu réagis comment? Toi, c'est du pain béni, ça, les Jeannette, pour toi?
Ah bah oui, moi j'applaudis demain, voire plus. C'est évident, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'offre et la demande qu'il faut faire avancer dans l'écologie. Hein, parce que c'est bien beau de dire il faut, si on n'a pas la possibilité, c'est clair que voilà, il faut aussi faciliter les choses. Et voilà, nous aussi, on essaye de travailler des deux côtés. Alors c'est bien beau d'avoir des familles à zéro déchet, et puis de l'autre côté, bah, il faut aussi aller voir tout le monde de la distribution pour les sensibiliser à ça, pour leur dire bah, regardez, vous avez quand même là des clients qui demandent ça. En fait, on a un peu les porte-paroles. Je prends un exemple aussi, là, je suis en train de travailler en parallèle avec les familles pour réduire le verre. Ça, c'est une vraie question. Comment on réduit le verre de la bière, par exemple. On va prendre cet exemple-là. Et ben, en parallèle, on travaille aussi avec les brasseurs bretons qui travaillent sur de la consigne, retour à la consigne. Donc là, notre boulot, c'est d'aller voir aussi les distributeurs pour qu'il y ait ces marques bretonnes et d'aller dire, ben, regardez, il y a la solution. Et là, ça devient vachement intéressant. Et puis derrière tout ça, enfin, c'est de l'économie locale, quoi. Voilà, c'est des emplois, ce sont des jeunes. Voilà, c'est quand même plus agréable d'aller faire ses courses voilà, dans les commerces où on connaît, qui créent de l'emploi, quoi.
Quand tu parles de la consigne, ça serait le retour de quelque chose qu'on a abandonné il y a quoi ? Il y a une vingtaine d'années, finalement.
Ouais, et si la question, c'est pourquoi on l'a abandonné, bah, c'est parce qu'aujourd'hui, voilà encore un signal positif, c'est que la consommation, elle se relocalise. Eh oui. Nous, Bretons, on aime bien consommer les bonnes bières de brasseurs bretons. Et en même temps, c'est chouette parce qu'il y a de plus en plus de micro-brasseries. Donc, la bouteille, elle ne part plus à l'autre bout de la France, voire l'autre bout du monde. Donc, elle devient économiquement, écologiquement, eh ben, facilement captable.
Je crois qu'on peut les applaudir, les Jeannettes, hein, quand même. Magnifique projet. Vous nous rappelez l'adresse ? Ça va se trouver où ? L'épicerie.
27 place Allende, Morlaix.
Et pour l'instant, on peut vous suivre où ? Sur les réseaux sociaux, par exemple ?
Alors oui, sur les réseaux sociaux, essentiellement. On travaille régulièrement avec la presse locale, mais de manière quotidienne, ce sera sur les réseaux sociaux.
Alors merci, Jeannette. Maintenant, nous passons à nos chroniqueurs. Tout d'abord, Mickaël et Jean-François, pour les conséquences positives de la pollution de la Mococadis.
Oui, moi en fait, j'avais choisi de parler de la Mococadis, du naufrage de la Mococadis dans cette émission parce que c'est mon année de naissance et donc mes parents, j'étais pas encore tout à fait né, m'ont parlé qu'ils avaient été constater ben, le désastre, hein, on peut le dire, à Port-Salle à l'époque.
3 fois plus de pétrole que dans les soutes du Torrey Canyon, et cela se passe à 5 km des côtes bretonnes. 11 ans, et oui, 11 ans presque jour pour jour, après la catastrophe provoquée par le naufrage du trop célèbre Torrey Canyon, un pétrolier échoué sur les récifs de la Bretagne Nord est en train de polluer à une vitesse grand V les côtes françaises. Ce navire, la Mococadis, s'est brisé cette nuit sur les terribles roches de Port-Salle, un joli petit port à 30 km au nord-ouest de Brest. L'épave est donc coupée en deux et le pétrole a déjà pollué plusieurs kilomètres de plage.
Pendant mon enfance, je suis allé avec mon père à Port-Salle et j'ai vécu, c'était un enfer. C'était vraiment l'enfer, quoi. Il y avait pas mal de personnes qui nettoyaient les plages et tout ça. Et il y a eu la faune, la flore qui a été vraiment bousillée par le pétrole. Mais c'est vrai que ça a fait un choc. J'étais choqué, quoi. Donc voilà, j'avais 6 ans. 6 ans et je me rappelle comme si c'était hier.
Le pétrolier avait quitté le golfe Persique le 7 février dernier pour la Grande-Bretagne. C'est une avarie de gouvernail hier en début de soirée qui est à l'origine de l'échouage.
Ça a été, d'après moi, la catastrophe de trop qui a entraîné une révolte et une mobilisation des élus locaux, notamment le maire de Puy-de-Mézeau, Alphonse Arzel, et puis le président du conseil général des Côtes du Nord à l'époque, Charles Josselin.
La Moco était là où est le grand rocher noir. Et on distinguait le bateau parce qu'il y avait le pétrolier de Pacifique qui avait allumé son grand projecteur et on voyait tout ce pétrolier de toute sa longueur de plus de 330 mètres. Et il y avait surtout des fusées rouges qui partaient du bateau, indiquant que l'équipage se sentait en danger.
Donc c'est principalement eux qui ont mobilisé d'autres élus et des associatifs pour carrément se rendre à Chicago et défiler avec leurs écharpes d'élus de modestes élus bretons devant la tour du pétrolier Amoco qui avait souillé nos côtes.
Je suis heureux d'être dans ces rues de Chicago pour prouver aux Américains par notre dignité que nous sommes venus simplement demander à ce que la justice soit rendue sur tous les dégâts que nous avons subis en 1978.
Bah, au début, ces gens-là, ils étaient pris un peu au ridicule. On se disait ils n'arriveront pas à s'en sortir face à une puissance capitaliste comme ça. Le procès qui en a suivi a débuté en 1982 et la procédure judiciaire s'est terminée que 10 ans plus tard, en 92. Et ces modestes élus bretons qu'on tournait un peu au ridicule, on pensait qu'ils n'y arriveraient pas, et ben ils ont fini par avoir gain de cause.
Alphonse qui réclame ses billets verts, à moi les billets verts, parce qu'on a attendu 14 ans pour faire payer les Américains.
Avec une indemnisation de 1,25 milliard de francs à l'époque, cette catastrophe-là qui a été donc la catastrophe de trop, elle constitue quand même un mal pour un bien, parce que c'est suite à ce procès-là que la notion de préjudice écologique a été reconnue dans le droit, donc ça a créé un précédent. Cette catastrophe locale finalement a eu des répercussions internationales par la suite pour la préservation des littoraux, quoi.
Même s'il y a des soubresauts dans cette vie qui peut être parfois chaotique, je crois que lorsqu'on en croit à quelque chose, il faut aller jusqu'au bout.
Alors maintenant, Michael va nous parler de la pollution atmosphérique. Il va nous parler des moteurs propres, du moteur à hydrogène, du moteur électrique. À toi, Michael.
Bonjour tout d'abord. Parlons un peu de la pollution atmosphérique en dioxyde de carbone, CO2, qui est le principal gaz impliqué dans le dérèglement climatique. Celui-ci est notamment issu des véhicules terrestres à moteur thermique. Afin de limiter les rejets en dioxyde de carbone, on envisage à terme de remplacer tous les moteurs thermiques, diesel, Super 95 et Super 98. Pour cela, il existe deux alternatives principales. Dans les deux cas, les véhicules sont équipés de moteurs électriques. Dans le premier cas, le moteur est alimenté par l'électricité fournie par des batteries d'accumulateurs, type lithium-ion par exemple. Ce modèle correspond à ce que l'on appelle aujourd'hui la voiture électrique. Ces batteries sont rechargeables, ont une faible autonomie, de l'ordre de 200 à 400 km. Ce type de véhicule est au point et un grand nombre toujours croissant de voitures fonctionnent sur ce modèle. Nous connaissons par exemple la Tesla, Autolib, Zoé, etc. Dans le deuxième cas, des véhicules alimentés en électricité par une pile à combustible, dont le fonctionnement est assez simple. On fait réagir du dihydrogène H2 avec du dioxygène O2 dans une pile à combustible. On génère alors un courant électrique et de l'eau. C'est pourquoi on parle improprement de moteur à eau. Ce type de source de courant électrique fonctionne depuis des années. Des piles à combustible équipaient déjà les vaisseaux Apollo lors de la conquête de la Lune. Le principal problème dans ce système est la production du dihydrogène en grande quantité. Le dioxygène, lui, est présent naturellement dans l'atmosphère. Pour produire du dihydrogène en grande quantité, il faut procéder par électrolyse. On récupère H2 et O2. Le dihydrogène est alors liquéfié et mis en bonbonne. Dans les deux cas, ceci implique l'apport d'une quantité importante d'électricité, soit environ la production de 6 EPR ou 5000 éoliennes. À titre indicatif, le parc éolien breton, troisième rang en France, fournit environ 1000 MW de puissance électrique. Conclusion, que ce soit le moteur à hydrogène ou les batteries d'accumulateurs, une généralisation des voitures totalement électriques à l'échelle de la France demanderait la production de beaucoup d'électricité. Des choix sont donc à faire.
Une petite réaction par rapport à ça de ma part. J'entends dire depuis des années que finalement l'urgence écologique, il n'y a pas trop d'urgence parce qu'on va être sauvé par le progrès technologique. Mmh. Oui, on peut être sauvé par le progrès technologique, mais il ne faut pas oublier les changements de comportement. Je prends l'exemple de la voiture, donc on vient de parler. On fait certes des voitures qui polluent moins aujourd'hui, donc on peut se dire, bah voilà, la technologie, voilà. Sauf qu'il y a 10 ans, on avait peut-être 0,8 voitures par foyer, et aujourd'hui, il y a peut-être 1,6. Voilà. C'est l'exemple aussi des écrans. Les écrans sont miniaturisés maintenant dans les maisons, et c'est tant mieux, donc on prend moins de minerais, moins de pollution, etc. Par contre, il y en a foultitude. Donc vous voyez bien que le progrès technologique, oui, mais seulement quand il y aura aussi des changements de comportement des usagers. Toujours la même chose.
À Pleubert-Christ, nous avons eu une formation concernant l'écologie avec un prospecteur spécialisé en la matière. Il nous a parlé de différentes choses. Tout d'abord, des sacs jaunes pour collecter les plastiques, qui sont ensuite ramassés par les camions et triés à la station. Il nous a aussi parlé de tas de compost à l'air libre, qui nourrissaient les rats et les souris. Il nous a donc conseillé des composteurs clos. Pour collecter les ordinateurs, les portables, les piles, les cartons et différents objets, nous avons super eu un mini-container. Ensuite, il nous a parlé de la déchetterie. Là, nous passons à d'énormes volumes. Tout d'abord, les déchets verts, taille de haies, de pelouses, d'arbres. Ils sont ensuite déchiquetés et transformés en terreau à la disposition des citoyens. D'énormes conteneurs récupèrent aussi les gravats du bâtiment, les cartons, le bois, mais aussi les journaux et revues par Terre d'Espoir, association qui œuvre pour les plus défavorisés. Une invention à Pleubert-Christ, où décidément rien ne se perd. Ils récupèrent les stèles des plébériens, mélangés à un engrais, nourriraient les sols, arbres qui, une fois déchiquetés, au fort pouvoir calorifique, remplaceraient le gasoil dans les chaudières, pour chauffer par exemple la bibliothèque, la gendarmerie, la piscine, le plomb à les morlaies, etc. Également pour fournir aux chaudières d'énormes machines déchiquettent les arbres au ras des talus, favorisant aussi la pousse dans les champs, supprimant les zones d'ombre à moindre rendement. Ce travail fournit également des copeaux de bois pour les chaudières. Du côté du courant électrique, nous avons les panneaux photovoltaïques à petite échelle pour le particulier, mais aussi d'énormes surfaces agricoles recouvrant ces panneaux. Au niveau financier, le remboursement de l'investissement qui est d'environ 20 000 euros pour une maison est de 6 à 8 ans. Ensuite, l'installation vous fournit du courant plus un bon bénéfice de revente à l'électricité à l'EDF. Il y a aussi les éoliennes de Pleubert-Christ qui sont énormes. Les agriculteurs les ont accusées de troubler les troupeaux, mais elles produisent du courant pour la centrale électrique de Pleubert-Christ. Pourquoi récupère-t-on tous ces objets? Parce qu'ils ne sont pas biodégradables. Ils sont laissés à la nature comme le temps, tout à la déchetterie, mais ils ne pourriront pas. Je crois qu'après un reportage à la télévision, ils seraient parvenus à recycler une partie en revêtement sol et recouvriraient les bandes cyclables et les salles omnisports. En ce qui concerne l'eau, nous remarquons les périodes où l'eau est inconsommable. Est-ce dû à la vétusté de la tuyauterie ou au lisier engrais qui atteindrait le ponctage de l'eau à la source? Au niveau de l'eau de mer, nous aurions retrouvé l'océan. Les autorités se demandent bien comment ils vont faire de se débarrasser de milliers d'hectares de plastique.
Alors, merci tout d'abord aux Jeannette. À Nicolas.
Merci à vous les chroniqueurs.
Merci à tous les chroniqueurs.
Et puis, comme il s'est passé dans le bâtiment, il est temps de tirer la sonnette d'alarme et il est temps de s'améliorer sur l'écologie. Hein. Soyez positifs.